France Info.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Votre région, la région que vous avez présidée, Poitou-Charentes, est menacée par une éventuelle pollution liée au naufrage du Grand America, de ce navire italien. Il y a deux nappes d'hydrocarbures qui ont été repérées, qui se rapprochent des côtes françaises. Pour autant, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, se veut plutôt rassurant. Je vous propose de l'écouter.
Nous ne sommes pas du tout dans la situation de l'Erika, où c'était un pétrolier qui s'était cassé en deux à proximité des côtes et qui donc avait déversé toute sa cargaison de fioul vers les côtes. Nous avons un volume qui est plus petit, c'est du fioul de propulsion, mais le risque existe bien sûr que des résidus, ce que nous n'arriverons pas forcément à pomper intégralement, arrivent sur les côtes.
Est-ce que vous êtes inquiète, Ségolène Royal ?
Bien sûr. Bien sûr, d'abord on ressent toujours de la colère hein, face à la pollution de l'océan. On oublie souvent que l'océan c'est 70% de la planète. Donc chaque fois qu'on lui fait du mal, chaque fois qu'on la pollue, chaque fois qu'on fait de la surpêche, chaque fois qu'on fait de la dégradation de la biodiversité, c'est finalement l'espace terrestre aussi qui est abîmé et donc les êtres humains et les êtres vivants qui vivent sur cet espace terrestre. Je dis cela parce que j'ai beaucoup lutté quand j'étais ministre de l'Environnement pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Ça a un peu progressé d'ailleurs hein, et je pense qu'un jour l'océan sera reconnu comme bien commun de l'humanité. Ce qui permettra d'une part des contrôles beaucoup plus rigoureux, notamment du transport maritime, puisque avec la mondialisation, le volume du transport maritime augmente et par conséquent, les contrôles doivent également augmenter et les règles doivent également être renforcées. Et en particulier, l'avenir est à la suppression du fioul lourd.
La
suppression
du
fioul lourd, non seulement en transport, mais également en énergie de propulsion, pour remplacer en fioul léger, en gaz liquéfié, etc. Et d'ailleurs, la France a une action extrêmement déterminée dans l'espace maritime le plus fragile de la planète en Arctique, parce que je suis ambassadrice des pôles, et à ce titre, je défends l'interdiction du fioul lourd en Arctique, parce que une marée noire comme celle-ci, dans les mers froides, aurait des conséquences encore plus catastrophiques.
Il ne s'agissait pas a priori de ce qu'on appelle un navire poubelle. Il avait 22 ans. Il n'y a rien pour l'instant qui semble montrer qu'il ait outrepassé la loi. Est-ce qu'il y a quand même des leçons à en tirer ?
Bien sûr. D'abord, il faut savoir pourquoi il y a eu un incendie. Ensuite, il semblerait que des fûts de matières dangereuses transportées par ce navire n'aient pas été répertoriés. Et par conséquent, il faut que les investigations et que les sanctions soient exemplaires, parce que c'est très dissuasif, la sanction. Je crois savoir que c'était une compagnie à bas coût. Mm-hmm. Donc, il y a aussi une concurrence sur la baisse des prix des transports maritimes, qui au passage, et c'est ça le paradoxe, reste le moyen de transport le moins polluant lorsque les navires sont aux normes, bien évidemment.
Concrètement, vous redoutez, Ségolène Royal, aujourd'hui, une marée noire sur les côtes de Charente-Maritime et de Gironde ?
Alors, c'est pas une marée noire en tant que telle que celle qu'on les a connues. Vous savez, ma région a beaucoup souffert. On a eu la marée noire, on a eu ensuite la tempête Xynthia. Donc maintenant, les professionnels des huîtres, qui sont les fleurons de l'économie de cette région, sont extrêmement éprouvés. Et donc deux nappes de fioul lourd se dirigent vers les côtes. Oui, c'est un vrai problème. Et cela dit, je voudrais moi saluer la rapidité et l'efficacité des moyens d'intervention de l'État, parce qu'ils ont été extrêmement réactifs.
Et qui devra payer les dégâts ? Le gouvernement dit que ce devra être l'armateur. Est-ce que vous y croyez ?
Mais c'est évident. Si les armateurs, à ce moment-là, c'est encore pire, si les armateurs non seulement n'étaient pas sanctionnés, mais en plus n'étaient pas contre, c'est le principe pollueur-payeur. En plus, ils ont des assurances. Donc, il y a deux choses à faire. Il y a la sanction si les règles n'ont pas été appliquées pour que le signal soit donné à l'ensemble des armateurs. Et deuxièmement, bien évidemment, la réparation des dégâts.
Ségolène Royal, des lycéens d'une centaine de pays s'apprêtent à manifester aujourd'hui pour le climat. Est-ce qu'ils ont raison de sécher les cours ?
Oui, pourquoi pas ?
Pourquoi pas
si c'est pour débattre ? Si c'est pour aller faire les farfelus dans la rue, non.
Ça vaut le coup de sécher les cours si c'est pour ça. C'est utile.
Oui, c'est utile parce que c'est un signal très fort. Et regardez, au fond, ils prennent au pied de la lettre ce que nous répétons depuis des années, à savoir nous empruntons la planète aux générations futures, l'écologie, c'est la protection des générations futures. Ah bon, ils disent, ce sont les générations futures.
Vos enfants sont grands, c'est Ségolène Royal, mais s'ils étaient plus petits, vous leur diriez la même chose. Vous leur diriez, vous avez mon feu vert aujourd'hui pour sécher les cours, allez manifester,
pas
ça vaut le coup.
Non, c'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que je pense que...
J'espère
que les établissements scolaires vont organiser. Il peut y avoir la suspension des cours, pas forcément de tous les cours, on ne va pas tomber dans la radicalité, mais qu'il y ait une suspension, qu'il y ait une prise de conscience des jeunes générations et qu'ils aient la liberté, qu'ils soient conduits par les adultes de façon éducative, c'est le rôle des adultes d'éduquer les jeunes, pour débattre de la question climatique, qui pourraient être informés de la question climatique, pour être au clair sur tous ces enjeux, que ce soit la biodiversité, le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, et puis que ça donne peut-être envie aussi à ces jeunes d'entrer un jour dans ces métiers, de créer un jour leur entreprise, d'innover, d'inventer le monde d'aujourd'hui, parce que c'est plus le monde du futur. Qu'avant il y avait des discours, c'est le monde du futur, nous protégeons la planète pour le futur. Non, c'est pas le futur. C'est ici et maintenant. Et c'est aujourd'hui que les dégâts sont déjà visibles.
Demain, il y a la marche mondiale pour le climat. Demain, est-ce que vous irez manifester où?
Non, je ne manifeste pas parce que je ne récupère pas les actions qui sont lancées par d'autres. Je ne suis pas pour la récupération politique, mais je trouve que c'est une bonne initiative, à condition que, je le répète à l'instant, qu'elle débouche sur de l'espoir. Nous sommes des passeurs d'espoir. Moi, j'ai toujours, critiqué l'écologie punitive, c'est-à-dire ne pas rester dans le catastrophisme. Le catastrophisme est là, puisque les dégâts du dérèglement climatique sont là. Les États insulaires sont en train de disparaître, les dégâts climatiques sont en train de ravager l'ensemble des côtes, des continents de la planète. Et lorsque l'on sait que la moitié de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes, on voit les menaces sur les migrations climatiques et donc sur la sécurité. Et j'ai beaucoup plaidé, vous le savez, pour la justice climatique. Et ce qui est de formidable dans la justice climatique, je crois que c'est une belle idée, ça qui peut plaire aux plus jeunes, c'est qu'on ne prend pas aux uns pour donner aux autres. Tout le monde est gagnant dans l'action climatique.
C'est pas la fin du mois contre la fin du monde, comme on l'a beaucoup entendu depuis le début du Gilet jaune. On va poursuivre cette discussion, si vous le voulez bien, Ségolène Royal, avec vous dans quelques instants. D'abord, un tour de l'actualité. Vous savez qu'elle est très lourde ce matin avec ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, ces attaques perpétrées contre des mosquées. On fait le point tout de suite avec Camille Revel. Il est 9h20.
C'est une attaque terroriste qui semble avoir été bien planifiée. Les mots de la première ministre de Nouvelle-Zélande après les attaques contre deux mosquées à Christchurch. Elles font 40 morts et 20 blessés graves. Un tireur est un extrémiste de droite australien. Trois personnes sont placées en garde à vue dans l'enquête. Les jeunes dans la rue pour le climat, ils sont appelés à sécher les cours au lycée. Aujourd'hui, c'est une mobilisation mondiale avec plusieurs dizaines de rassemblements à travers la France. Et toujours la crainte d'une pollution du littoral français après le naufrage du cargo Grande America mardi, deux nappes d'hydrocarbures dérivent lentement vers les côtes de Gironde et de Charente-Maritime. Édouard Philippe est prêt à examiner la possibilité de réindexer les retraites sur l'inflation en 2020, en particulier les petites retraites, déclaration sur Europe 1 du Premier ministre ce matin. Les députés britanniques votent pour reporter le Brexit d'au moins 3 mois, mais encore faut-il que les autres États membres de l'Union européenne donnent leur feu vert. Rennes éliminée en Ligue Europa de football, les Rennais battus par Arsenal hier soir 3-0 en 8e de finale retour.
France Info. Toujours avec Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, qui est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Est-ce que vous avez signé, Madame Royal, la pétition pour l'affaire du siècle qui dénonce l'inaction climatique des États?
Non.
2 millions de signataires, ça ne vous a pas tenté ?
Non, parce que je suis une responsable politique, donc moi j'agis. Je suis dans l'action, je ne suis pas dans la pétition. Mais les pétitions sont utiles, donc chacun a sa responsabilité.
Les initiateurs de cette pétition, l'affaire du siècle, Ségolène Royal, ils ont déposé plainte, conformément à la menace qu'ils avaient énoncée. Ils ont déposé plainte pour dénoncer l'inaction de l'État, justement, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi hier depuis Nairobi, où il est en déplacement, à ce dépôt de plainte. On l'écoute.
J'en vois pas les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, je pense qu'elle ne mènera pas, je pense, à un débouché judiciaire. C'est pas là que ça se joue, d'ailleurs. Moi, j'achète pas cet esprit, si je puis dire. La solution, elle est en nous tous. Hein. Les gouvernements doivent bouger, les grandes entreprises doivent bouger, les investisseurs doivent bouger, les citoyens doivent bouger.
C'est pas une initiative judicieuse de déposer plainte ? contre l'État ?
Non, ce n'est pas une initiative judicieuse. Pour deux raisons. D'abord parce que s'il y a une plainte à déposer, ce n'est pas contre la France, c'est contre les États-Unis d'Amérique. La France est à l'avant-garde du combat climatique. Non seulement parce que la France, au-delà des alternances politiques, non seulement parce que la France a réussi l'accord de Paris sur le climat, et ça c'est la diplomatie française et la conviction française qui a réussi à entraîner l'ensemble des pays du monde, je suis bien placée pour vous le dire, puisque j'avais fait en sorte, pour que la France soit crédible, qu'elle adopte la loi de transition énergétique avant la conférence de Paris sur le climat, et c'est ça qui nous a rendu
crédibles. Même si la France aujourd'hui ne respecte pas les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. En matière d'émissions.
Mais où est-ce qu'on a vu ça ? C'est un travail continu, la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce qui m'étonne, c'est deux choses. C'est que dans ces organisations qui portent plainte, il y a des organisations françaises qui reçoivent des fonds publics. Donc si elles reçoivent des fonds publics, c'est quand même que la France fait son travail, y compris pour aider ces organisations qui agissent contre le réchauffement climatique. Donc c'est
la France est à l'avant-garde,
Ségolène
Royal.
Et deuxièmement, il y a des organisations internationales, et comme je viens de le dire, il y a quand même des pays qui ne respectent, qui même mettent en cause le réchauffement climatique. C'est contre cela qu'il faut agir. C'est pas contre la France, qui, je le répète, est à l'avant-garde pour sa législation, même si elle peut mieux faire, et même s'il y a eu des reculs, je les ai dénoncés au cours des mois qui viennent de s'écouler. C'est la France qui est à l'avant-garde pour la finance verte. C'est la France qui met sur la table des propositions sur la Banque européenne du climat.
On ne tire pas sur les premiers de cordée.
Je
me passais cette expression. On ne tire pas sur un pays qui, pour vous, donne l'exemple.
On ne dégrade pas l'image de son pays quand on est une ONG française qui bénéficie de fonds publics et qui est soutenue en tant que telle, avec à sa tête en plus un Premier ministre, un ancien ministre de l'Environnement.
Ça, c'est ce que ça veut dire.
Et qui, franchement, n'a pas fait des étincelles.
Est-ce que ça veut dire que l'État devrait couper ses financements publics à ces ONG?
Non, je ne vais pas les punir. Je ne suis pas pour l'écologie punitive.
Vous dites qu'elles ne peuvent pas porter plainte parce qu'elles perçoivent des
fonds
publics.
C'est pas ça que je dis. Est-ce que c'est responsable ou pas ? C'est tout.
Vous trouvez que la position de Cécile Duflot, puisque c'est elle qui vous parlez, c'est le moyen, n'est pas très clair sur cette
affaire. Et des responsabilités. Oxfam, c'est une organisation internationale. Vous ne croyez pas qu'il y a quand même, je le répète, d'autres pays à mettre en cause que la France, qui est quand même à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement, climatique, et qui porte ce flambeau et qui est attendu par l'ensemble des pays du monde. Et en faisant ça, en plus, on porte atteinte aux entreprises françaises, parce que les entreprises françaises sont également les entreprises qui sont à la pointe de l'innovation climatique. Elles pourraient faire mieux, elles pourraient faire plus. Je l'ai dit d'ailleurs aux industriels de l'automobile qui ont trop traîné les pieds sur la voiture électrique, par exemple, alors que c'est la France qui détenait les brevets sur la voiture électrique. On aurait pu être dans ce domaine les premiers de cordée. Et par conséquent, je crois qu'il faut être rationnel. Et il y a des règles, il y a des droits et des devoirs, vous voyez, dans la société.
La question du nucléaire, Renaud Dely.
Sur la transition écologique, il y a un sujet sur lequel le gouvernement a reculé, en tout cas repoussé l'échéance de la baisse de 75 à 50% de la part de production d'énergie nucléaire dans la part de production énergétique totale, donc de 2025 à 2035. Il a repoussé cet objectif de 10 ans. Et voici pourquoi, selon la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson.
2025, c'est demain, et quand nous sommes arrivés au gouvernement, rien, absolument rien, n'avait été fait pour commencer à fermer des réacteurs nucléaires. Rien. Or, ça se fait pas du jour au lendemain.
Ce recul de 10 ans, c'est de votre faute.
Moi, je rentre pas dans ces polémiques absurdes. Vous savez, j'ai jamais fait de la politique en 10 ans. Avant moi, il y avait rien ne s'était passé. Après moi, maintenant, tout est merveilleux. Je vais même pas commenter la faiblesse de ce qu'on vient d'entendre.
Très concrètement, elle dit rien n'avait été fait pour préparer la fermeture des centrales.
Vous savez, la France était, quand j'étais aux responsabilités, le pays d'Europe le plus offensif sur les énergies renouvelables. C'est si vrai que nous avions réalisé en 3 ans la production équivalente de 6 réacteurs nucléaires en énergie renouvelable et que nos entreprises traditionnellement investies dans les énergies fossiles étaient en train de prendre le tournant des énergies renouvelables. Et chaque fois que l'on remet en cause des échéances, chaque fois qu'on les repousse de plusieurs années, on détruit de la valeur économique. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on détruit de la valeur économique dans les cercles vertueux de l'économie. Si à chaque fois que les entreprises investissent dans la croissance verte, elles ont peur qu'on remette en cause les règles, qu'on remette en cause les exigences, qu'on remette en cause les normes, à ce moment-là, elles ne vont pas investir.
Alors pourquoi le gouvernement a-t-il repoussé de 10 ans cette échéance, d'après vous?
Parce que c'est le lobby du nucléaire. et que c'est la facilité. Et que le lobby d'une, et c'est encore Nicolas Hulot qui était là. Et c'est ça qui est désolant. Le gouvernement a repoussé la transition nucléaire. Le gouvernement a redonné des autorisations de permis de recherche d'hydrocarbures, contrairement à ce que dit l'accord de Paris sur le climat. Et ça, c'est pas bien.
C'est le lobby,
comme je le décris dans mon livre. Mais oui, c'est le lobby du nucléaire, c'est le lobby des énergies fossiles. Aujourd'hui, on a le lobby de l'industrie automobile qui traîne les pieds, je le disais tout à l'heure, sur la transition vers les voitures électriques. Je comprends que les lobbies résistent. Ils sont dans leur rôle. Moins ils se donnent de mal pour faire les transitions, c'est difficile de faire les transitions. Il faut faire de nouvelles formations professionnelles, il faut entraîner la communauté de l'entreprise vers une autre vision, c'est difficile. Mais quand l'État prend ses responsabilités, que le Parlement vote une loi majorité-opposition, qu'il y a un travail considérable sur la loi de transition énergétique, et qu'un gouvernement arrive, et juste pour dire que ce qui était avant était tout mal et que maintenant c'est tout bien, retouche aux échéances économiques majeures, c'est une mauvaise action et c'est un manque de confiance dans l'avenir. Moi, je crois au contraire qu'il faut anticiper, accélérer les transitions et être au-dessus des objectifs. Parce que les trains, elles sont, ils sont comme si il faut viser au-dessus d'un objectif pour atteindre peut-être un objectif un peu moins ambitieux. Mais si vous visez en dessous d'un objectif, vous êtes sûr de vous écrouler. Et économiquement, les acteurs économiques et les fonds d'investissement, ils ont besoin de stabilité.
Un mot rapidement, si vous le voulez bien, Ségolène Royal, sur le pouvoir d'achat. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce matin qu'il était prêt à examiner une éventuelle réindexation des retraites sur l'inflation. Cette année, elles ne seront pas indexées, les retraites. Elles vont simplement gagner 0,3%. Vous dites quoi? Il était temps? Il fallait le faire, il faut les réindexer, il y a urgence.
Ah oui, d'urgence. Non seulement il ne fallait pas désindexer, c'était quand même la première fois que ça se faisait. À quoi il faut répondre dans cette crise des gilets jaunes? Il faut répondre à la peur du déclassement. Et quand la peur du déclassement empoigne ceux qui sont les plus modestes, parce qu'ils ont des petites retraites, et notamment les femmes, ou les bas salaires, à ce moment-là, on n'est plus dans la République fraternelle, j'allais dire. Et par conséquent, les technocrates qui ont inventé ce système de désindexation, parce que plus la CSG, plus la taxe carbone...
Les technocrates, ils sont à Matignon et à l'Élysée, jusqu'à nouvel ordre. C'est le Premier ministre et le Président.
Ils sont au ministère des Finances.
C'est Bercy qui a pris le pouvoir.
Les premiers mois d'exercice du pouvoir de ce nouveau quinquennat, je pense que il n'y a pas eu suffisamment de politique. Vous voyez, au sens, quel est le modèle de société que nous voulons et quelles décisions nous prenons. Il y a une espèce de revanche des services du ministère des Finances, que j'ai bien connu, puisque tous les arbitrages que le ministère des Finances avait perdus au profit de l'environnement ont été immédiatement repris lorsqu'il y a eu l'alternance. Et ça, c'est pas bien. Il doit y avoir une continuité de l'État et surtout, il doit y avoir dans une République une protection de ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui, aujourd'hui, veulent tout simplement vivre et pas seulement survivre.
Il est 9h10 sur France Info, le rappel de l'actualité. Et on poursuit cet entretien juste après. C'est Camille Revel.
40 personnes tuées, 20 autres grièvement blessées dans l'attaque commise contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande à Christchurch. À l'heure de la prière, un tireur est identifié comme un extrémiste de droite australien. 3 personnes sont en garde à vue. Des jeunes déjà réunis devant leur lycée ce matin à travers la France, ils sont appelés à faire l'école buissonnière et manifester pour le climat. C'est une mobilisation mondiale. L'essayiste et cofondateur du parti Place Publique, Raphaël Glucksmann, va lancer une liste pour les européennes en tandem avec la militante écologiste Claire Nouvian. Il le confirme sur France Inter, se dit candidat pour en prendre la tête et appelle plusieurs partis de gauche à y adhérer. Le grand débat se termine officiellement aujourd'hui. On peut contribuer en ligne jusqu'à lundi et c'est le coup d'envoi des conférences citoyennes régionales, une vingtaine d'ici le week-end prochain. L'analyse des boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines commence aujourd'hui en France, 5 jours après le crash. Elle est menée par le Bureau d'enquête et d'analyse, le BEA.
Info. Toujours avec Ségolène Royal. Madame Royal, vous, ministre, est-ce que vous auriez privatisé les aéroports de Paris?
Je ne crois pas. J'en suis même certaine. Non, je n'aurais pas privatisé l'aéroport de Paris. D'abord parce que l'enseignement de la privatisation des autoroutes est quand même très spectaculaire. C'est-à-dire que ces autoroutes ont été privatisées bien en dessous de leur prix. Or, c'était le contribuable français qui avait payé ces infrastructures. Là aussi, Aéroport de Paris, c'est le contribuable français et ce sont les voyageurs, par les billets d'avion, qui ont payé Aéroport de Paris.
On refait exactement la même erreur 10 ans après ?
Je le crains. Est-ce que les choses... Alors, on n'est pas... C'est pas une position idéologique ou théorique, hein. C'est que je pense qu'il faut bien évaluer les conséquences d'une décision comme celle-ci et savoir si on ne transfère pas des profits du public vers le privé, sans aucune raison.
Vu le tollé provoqué par cette privatisation, est-ce que vous demandez au gouvernement de la suspendre pour l'instant, pour amener un petit peu de calme ?
Ce que je demande, c'est qu'on regarde bien les conséquences de cette privatisation, que ce ne soit pas une privatisation idéologique. Et je crois que les conséquences en seront négatives. Et par conséquent, il ne faut pas le faire. Dans un contexte de restriction en plus de la dépense publique, c'est dommage quand même pour la collectivité publique de se priver de recettes aussi importantes que celles-ci.
Renaud Dely.
Le Parti Socialiste n'a toujours pas dévoilé à l'heure qu'il est sa liste et son dispositif pour les élections européennes. Il pourrait, le PS, se ranger derrière l'essayiste Raphaël Glucksmann et son mouvement Place Publique, qui lui se dit prêt à être éventuellement une tête de liste de rassemblement. Est-ce que le Parti Socialiste pourrait se ranger derrière un candidat qui ne soit pas membre du PS ? Est-ce que ça vous choque ?
Non, ça ne me choquerait pas, mais c'est au Parti Socialiste d'en décider.
Il le décidera demain. A priori, on nous dit que c'est presque fait.
Je n'ai pas d'informations
sur ce qu'il va décider. Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste se rangerait derrière un candidat qui ne soit pas membre de ses rangs ? Est-ce que l'étiquette PS aujourd'hui, elle est si lourde que ça à porter, Ségolène Royal ?
Je ne crois pas, mais je pense qu'il y a peut-être un souci de rassemblement avec d'autres mouvements, d'autres forces.
On a l'impression que c'est un fardeau quand même l'étiquette PS. Ah. Vous-même d'ailleurs, vous l'avez pesé d'ailleurs.
Oui, c'est pas très porteur en ce moment, mais c'est pas bien grave.
On peut pas gagner une élection avec
moi. Pour redresser.
Vous êtes toujours adhérente ?
Non, je suis plus adhérente.
Depuis combien de temps ?
Je sais plus, deux ans.
Deux ans, vous payez plus de cotisations ?
Parce que je veux plus.
Deux ans, c'était la présidentielle, hein. C'était la campagne de la présidentielle. Oui, vous avez arrêté à ce moment-là ?
Mais c'est pas une décision comme ça formelle, anti-PS, etc.
Vous pourriez reprendre votre carte un jour ou pas ?
Je pense que quand on adhère. Si, parce que quand on adhère à un parti, il faut participer à ce parti. Je ne me vois pas vraiment retourner dans des réunions de section, etc. Donc, voilà. Mon parti, c'est la planète.
Vous aviez été pressenti, approché, courtisé pour essayer de bâtir une vaste liste d'union des gauches. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à rassembler les gauches ?
Parce que les appareils politiques, hélas, prennent le pas sur l'idéal. Et au moment où nous devons reconstruire l'Europe qui est fragilisée, qui est affaiblie, c'est comme des enjeux cruciaux pour l'avenir même des générations qui vont être dans la rue sur le climat. La question de l'européenne est pour moi une question essentielle. Parce que si on laisse l'Europe s'affaiblir face aux autres continents, si on perd le leadership climatique, culturel, éducatif, d'innovation industrielle et technologique, eh bien, il y aura un très fort affaiblissement et un repli sur les nationalismes qui sont là à l'affût, qui pensent pouvoir être majoritaires au Parlement européen de demain.
Donc, il faut se
nationalisme, c'est la guerre.
C'est-à-dire la hargne de
tous contre tous, où l'homme devient un loup pour l'homme. Est-ce qu'on veut ça pour l'Europe ? Non, on ne veut pas ça pour l'Europe. Donc, ça justifiait qu'il y ait une offre politique intéressante, structurée, forte, ambitieuse, inspirée et qui rassemble les gauches et les écologistes.
Donc il faut se débarrasser des appareils politiques du vieux monde.
Qui n'a pas voulu,
qui a dit non ? Mais je ne peux pas les citer. Mais
vous dites que les états-majors ont tué ma candidature.
Toutes les têtes de liste qui se sont, que des hommes d'ailleurs.
Monsieur Jadot ?
Tous.
Monsieur Faure, tous les chefs de parti ont dit
non. Olivier Faure a dit oui.
Puisqu'il
était au contraire dans une dynamique de rassemblement. C'est-à-dire qu'ils pensent, ils gèrent leur petite boutique au lieu de gérer l'idéal et l'avenir européen. C'est assez triste, parce que la gauche a quand même quelque chose à dire dans cette campagne. Regardez à quel point, d'ailleurs, dans la tribune d'Emmanuel Macron sur le bouclier social et sur le revenu minimum, c'est des idées sur lesquelles la gauche pouvait se retrouver, qui sont d'ailleurs contestées par d'autres pays. Mais c'est bien, ça prouve qu'il y a un débat.
Vous avez dit que cette tribune d'Emmanuel Macron, elle était, je vous cite, c'était un texte bienvenu, rassembleur et imaginatif. Est-ce que vous pourriez voter, par exemple, pour Nathalie Loiseau qui fait acte de candidature pour La République En Marche ?
Moi, je ne saute pas d'un constat sur une vision de l'avenir de l'Europe vers un comportement électoral. pour moi, ce sont deux choses différentes. Donc, je me suis exprimée. Non, mais je me suis exprimée en tant que citoyenne, également en tant que responsable politique et en tant que observatrice d'un vide sur les idées en Europe. Emmanuel Macron a eu le mérite de reprendre ce flambeau et de mettre sur la table un texte court, compréhensible de tous, imaginatif et notamment dans la partie sur le climat, équilibré parce que c'est aussi un texte qui, je viens de le dire à l'instant, reparle du bouclier social, ce qui est nouveau dans le langage d'Emmanuel Macron. Il a tenu compte du mouvement des Gilets jaunes dans ce texte. Donc je ne vais pas critiquer ce que je trouve bien. Et par ailleurs, sur la Banque européenne du climat, c'est une transformation, une création que j'ai appelée de mes voeux en tant que présidente de la COP21. Donc par honnêteté intellectuelle, je dis quand les choses sont bonnes. Et par rapport à l'inquiétude d'un vide intellectuel au niveau de l'Europe, Emmanuel Macron a rempli ce vide.
Merci Ségolène Royal.